Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle...
Ljuba Jurgensson.
Écrivaine, maître de conférence à la Sorbonne, elle vient de publier et de traduire « La limite de l'oubli » de Sergueï Lebedev. Avec elle, une troisième étape de cette semaine imaginée autour du mot « oubli ». L'une des invitées de Marc Vanchet ce matin disait depuis cette chambre d'hôtel de Kiev transformée en studio « Nous menons un combat pour le droit d'être respecté par la police, le droit de disposer d'administrations qui fonctionnent, le droit de peser sur les décisions politiques nationales et internationales de notre pays. La question pour nous, disait-elle, est de respecter ou non les droits de l'homme. L'Europe, c'est en fait un autre nom pour parler de l'application de la Déclaration des droits de l'homme. » Nul ne connaît encore l'évolution de la situation du pays dont le nouveau gouvernement devrait être, entre guillemets, évalué sur un modèle de démocratie directe. Mais il est certain que cette idée, l'Europe, comme un autre nom pour parler de l'application de la Déclaration des droits de l'homme, devrait nous marquer. Il est 16h passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid du jour apparaît une liste de choses à ne pas oublier. Sur le plateau du milieu, une ombre plane sur la taïga. Troisième moment dans notre semaine imaginée autour du mot « oubli ». Ljuba Jurgensson nous parle du roman « La limite de l'oubli » qu'elle publie et traduit depuis le russe. Vers 16h50, nous vous faisons entendre un poème de l'écrivaine néo-zélandaise Catherine Mansfield. Ensuite, il sera 17h et nous retrouverons Hervé Gardette pour le 5 à 7. En attendant, Rodolphe Dana sort de sa bibliothèque un extrait du Destin miraculeux d'Edgar Mint de Brady Udall dans une traduction de Michel Lederer. On écoute.
Si je devais ramener ma vie à un seul fait, voici ce que je dirais. J'avais 7 ans quand le facteur m'a roulé sur la tête. Aucun événement n'aura été plus formateur. Mon existence chaotique, tortueuse, mon cerveau malade et ma foi en Dieu, mes empoignades avec les joies et les peines, tout cela, d'une manière ou d'une autre, découle de cet instant où, un matin d'été, la roue arrière gauche de la Jeep de la Poste a écrasé ma tête d'enfant contre le gravier brûlant de la réserve Apache de San Carlos. C'était par une journée typique de juillet. À peine 10 heures, déjà plus de 37 degrés, et le monde baigné dans une lumière blanche et aveuglante. Notre maison était particulièrement vulnérable à la chaleur, car, à l'inverse des autres logements sociaux qui bordaient la route, elle était recouverte de toiles goudronnées. Dans le jardin de devant se dressait, squelette calciné, un vieux peuplier frappé par la foudre, qui n'offrait pratiquement pas d'ombre, jusqu'à ce que ma mère ait pris l'habitude d'accrocher des boîtes de bière aux branches noircies à l'aide de fils de pêche. Les centaines de canettes auxquelles une bonne douzaine venait chaque jour s'ajouter tintaient doucement quand la brise se levait, mais elles ne contribuaient guère à donner de la fraîcheur à la maison. Lorsque le facteur s'arrêta ce jour-là devant chez nous, ma mère, installée dans la cuisine aussi sombre qu'une grotte, expédiait son petit déjeuner. Cependant que grand-mère Paul, vêtue de sa jupe traditionnelle et de son sweatshirt Mickey, broyait des glands sous la pergola tout en réussissant à ne pas transpirer. Moi, j'étais dehors, à traîner au milieu des hautes herbes sur le bas-côté de la route, ou peut-être à semer la panique dans une fourmilière. À la vérité, peu importe où j'étais, ce que je faisais. Ce qui compte, c'est que le facteur, un petit gringalet dont les cheveux roux luisants de transpiration évoquaient la chair d'une citrouille, descendit de voiture pour aller dire un mot à ma mère. Ce qui compte aussi, c'est que pendant ce temps-là, quelque chose, Dieu seul sait quoi, me poussa à me glisser en dessous. Peut-être mon attention avait-elle été attirée par une page de catalogue ou un nom joliveur abandonné là, à moins que le rectangle d'ombre pourpre sous la Jeep m'ait semblé constituer un bon endroit où m'abriter de la chaleur. Je dois pourtant m'interroger. Peut-on imaginer que le petit Edgar de 7 ans, affligé d'une mère constamment saoule et déprimée et d'un père disparu dans la nature, sans oublier une folle de sorcière pour grand-mère, et songer au suicide? Peut-on imaginer qu'Edgar, 7 ans et fatigué de tout, après avoir posé sa tête devant la roue, se soit contenté d'attendre? Vu le peu que je sais de ma vie jusqu'à ce jour-là, ce n'est pas une hypothèse à écarter. Malgré une enfance loin d'être idéale, je pense que malheureusement, des pans entiers de l'existence de ce garçon me resteront à jamais inconnus. Je n'ai de lui que des souvenirs fragmentaires, fuyants. Je suppose que cela ne dérange pas la plupart des gens. De toute façon, qui se rappelle ce qu'on était à 7 ans? Mais pour moi, obsédé comme je le suis par le passé, par les faits, par l'histoire sur une toute petite échelle, obsédé non seulement par les pourquoi mais aussi par les simples qui, quoi et où, c'est une absence agaçante, à l'exemple du vide laissé par une dent arrachée. J'en sais davantage sur des inconnus que sur le petit Edgar de 7 ans. Je ne saurais jamais pourquoi il avait rampé sous cette voiture.
Rodolphe Dana, c'est un extrait du Destin miraculeux d'Edgar Mint de Brady Udall. C'est le début et c'est une scène fondatrice puisque c'est la scène où il se fait rouler dessus par la Jeep du facteur. Comment vous l'avez découvert celui-ci?
Par hasard. Je fais pas. Quand je choisis un livre, je regarde derrière la quatrième de couverture, comme on dit. Et puis surtout, je lis les premières pages pour repérer le style. Souvent, on sait quand même assez tôt. Enfin, même en regardant. Lire la première page, et puis après en feuilleter, lire la page 250. Souvent, je sais si j'ai. Voilà, si c'est un choix qui va s'avérer bien ou pas, quoi.
Ça tient à quoi?
Ça tient à la phrase, en fait, au rythme de la phrase, à sa musicalité, et au sujet, bien sûr. J'aime bien rencontrer les deux. C'est assez rare, mais ça se sent tout de suite quand le style d'un écrivain. Sert l'histoire en fait, et que c'est pas deux choses distinctes, que l'histoire prenne plus le pas sur le style ou que le style prenne plus le pas sur l'histoire. Quand on arrive à ce dosage là, c'est assez rare, mais c'est assez remarquable quand même. Ça apparaît. Et puis parce que j'aime les histoires d'enfants en fait, j'aime beaucoup les un peu à la Dickens comme ça, des destins un peu, ça part vraiment très très mal, et puis et puis, il rencontre des épreuves, des aventures, et puis il se modifie. Voilà, petit à petit, ils deviennent des adolescents, puis après des hommes. Sans tomber dans un cliché, mais... Les enfants qui ont des existences un peu cabossées, un peu douloureuses, je trouve, développent autre chose que ceux qui auraient une enfance plus heureuse, plus épanouie, plus harmonieuse.
Quand ils peuvent,
quand
on va
ils
dire.
Peuvent. Ils développent, un imaginaire et une singularité peut-être plus forte, je ne sais pas, quelque chose de vraiment particulier. Et on sent aussi qu'il y a quelque chose d'autobiographique, évidemment. Mais je trouve ça vraiment... je sais pas, ça me touche beaucoup, sans doute parce que ça doit faire appel à l'enfant que j'étais.
Quelle musique vous voulez faire entendre?
On va écouter Leonard Cohen, Tower of Song.
Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Sound. tied me to this table right here in the Tower of Sound. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Oh, they don't let woman kill you, not in the Tower of Sound.
Demain, Rodolphe Dana poursuit le déballage de sa bibliothèque avec un extrait du côté de chez Swann de Marcel Proust. Mais demain, c'est demain. Et tout de suite, c'est le polaroid d'un autre. De ne pas oublier que j'ai dormi très longtemps en chien de fusil, non sans me demander en vain de quel kleps aux aguets il pouvait bien être question. De ne pas oublier, entre autres lapsus de ma fille notés sur le vif durant mes dernières vacances d'été, ces trois-là qui m'ont durablement marqué. J'ai des proches sous les yeux. Y a pas de quoi être frère. T'es contre l'égalité des sectes. De ne pas oublier que si près de 3 millions de lettres de dénonciation furent envoyées pendant l'occupation par de zélés informateurs, les antennes départementales de la Caisse nationale des allocations familiales en ont reçu plus de 3 000 au cours de l'année 2011, rédigées et signées sous couvert du même anonymat par tel bon français ou tel honnête contribuable. De ne pas oublier que, lorsqu'une balle de ping-pong est légèrement enfoncée, il suffit de la plonger dans une casserole d'eau bouillante pour qu'elle retrouve sa rotondité initiale. De ne pas oublier que depuis quelque temps, on me reproche de ne jamais finir mes phrases. Désinvolte habitude qui tient à deux sources, hélas, assez inextricables. Soit, vu l'évidence du contexte, que la fin de mon propos tombe sous le sens, soit que, tombant des nues mi-parcours, je préfère sous-entendre ce qui me manque par omission.
I can't.
J'ai dit le Polaroid d'un autre car il était composé de quelques extraits du livre « Souviens-moi » qu'Yves Pagès fait paraître aux éditions de l'Olivier et qui sera en librairie le 6 mars prochain. À la faveur d'un exercice à la Pérec, le livre se compose d'injonctions à ne pas oublier ou à l'inverse de souvenirs qui, une fois consignés, peuvent libérer la tête jusqu'alors occupé. L'oubli, écrit Yves Pagès, c'est un bruit de fond familier, le mien, une nappe sonore qui empêche d'isoler ceci de cela, cerné par la plénitude du silence autour. Vu le thème de notre semaine, il eût été dommage de s'en priver. Le livre, donc, est en librairie dans 10 jours. Il s'appelle « Souviens-moi » et il est publié aux éditions de l'Olivier. Pour ce Polaroid, Michel avait choisi de vous faire entendre un titre de Jem Club. Le titre s'appelle « Michael ». Et la playlist des choix musicaux de Miss Chanel, alias numéro 5, est toujours disponible sur Deezer, c'est à ne pas oublier. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le troisième moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « oubli ». Après avoir réfléchi à l'illusion d'un oubli décrété politiquement et au sens qu'il recouvre, après avoir hier retracé l'histoire d'Alzheimer et envisagé cette maladie comme une maladie du temps, aujourd'hui c'est l'histoire d'une ombre qui plane, une ombre qui porte le nom de l'autre grand-père, une ombre qui, comme toutes les ombres, peine à disparaître même si l'on se retourne pour la battre fort. C'est l'histoire d'un passé aveugle, d'un passé aveuglant, un passé sans nom, un passé gelé. Si la semaine dernière, Catherine Perret évoquait ici, citant Kafka, le livre qui brise la mer gelée en nous, Sergueï Lebedev marche sur la taïga, ce désert, pour le briser. La limite de l'oubli est d'abord une limite physique, rocheuse, une carrière, avant de se révéler être, à l'évidence, une limite de mots. Le narrateur du roman que vous avez traduit, Luba Jorgensen, entreprend un voyage vers la langue, voyage que vous faites en quelque sorte à rebours, presque, en le traduisant. La limite de l'oubli de Sergueï Lebedev est parue aux éditions Verdier, dans une collection que vous dirigez. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter cet auteur qui va donc être avec nous pendant 40 minutes sans être là physiquement, Sergueï Lebedev?
Eh bien, c'est un très jeune auteur de 30 ans et il s'agit de son premier livre. Ça me paraît quelque chose de tout à fait exceptionnel que cette écriture, l'écriture d'une, qui est d'une telle maturité pour un jeune garçon donc, qui a commencé en tant que géologue et a participé à plusieurs expéditions justement sur les lieux dont il parle. C'est à cette occasion qu'il a découvert les premiers vestiges des camps. Il est donc né, je dis 30 ans, il doit avoir maintenant 32.
Il est né en 71.
En 81, on a fêté ensemble ses 31 ans en 2012. Oui, donc il va sur ses 31 ans. Bon. Mais il a écrit ce livre avant la trentaine. Et ses voyages, d'ailleurs, remontent à son adolescence. C'était sa façon de s'évader de chez lui, de vivre des aventures. Et donc, 81, vous voyez, on est à 4 ans de la perestroïka. C'est un jeune homme qui n'a pas connu pratiquement l'Union soviétique, ou alors qui était tout jeune. Et lorsqu'il entre dans l'âge de réfléchir, paradoxalement, cette histoire de l'Union soviétique qui est encore toute proche est justement frappée d'une sorte d'amnésie. On n'en parle pas, on se dit que c'est fini. Il y a pendant une toute petite période l'euphorie du renouveau. Et donc, c'était quelque chose qui avait été totalement évacué de l'histoire sociale, de la vie sociale. Adolescent, en Sibérie, il découvre des vestiges de baraquements. Il comprend qu'il y avait eu là des camps et que ces lieux n'ont jamais fait l'objet d'aucune patrimonialisation, qu'on n'en parle pas, qu'ils sont restés là à l'abandon. Et la violence de l'appel de ces vestiges vers lui a été certainement pour quelque chose dans la manière dont il s'est attaqué à ce sujet. Et par ailleurs, alors à côté de cette amnésie ambiante, il y a le silence familial qui se manifeste notamment à travers des photographies sur lesquelles il n'arrive pas à mettre des noms. Et surtout pas des visages, c'est-à-dire il voit des photographies de personnes jeunes qu'il n'a jamais vues vieilles. Et donc il se dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est tous ces gens que je n'ai pas connus, toute cette partie de la famille, où est-elle? Donc il commence à poser des questions et de fil en aiguille, il en arrive à découvrir tout un gisement de mémoire enfouie. Et ce sera l'objet d'une trilogie, parce que ce livre, c'est un garçon qui est totalement engagé dans son projet d'écriture. Donc il a déjà terminé le deuxième, et il s'attaque au troisième. Il envisage ça comme une trilogie sur l'oubli et la mémoire. Et ces questions donc qui l'ont interpellé vont être au cœur de ces trois textes.
Comment vous avez découvert ce texte-là, La limite de l'oubli, vous ?
Il m'a été suggéré par des amis. Ça faisait longtemps que je cherchais un jeune auteur pour ma collection, pour la collection Poustiaki, où nous avons deux grands écrivains contemporains et qui ont déjà de la bouteille et toute une œuvre, donc Guirchovitch et Sorokine. Et je rêvais de découvrir un jeune écrivain, mais ce que je lisais n'entrait pas dans cette collection qui est consacrée, enfin dans l'esprit de ses co-directrices, donc à des textes d'un grand niveau littéraire, mais qui touchent aussi à l'histoire. Voilà. Et donc des amis qui connaissaient justement mon intérêt pour les questions d'amnésie et de mémoire m'ont signalé cet ouvrage. Et je dois dire que là, ça a été immédiatement le coup de foudre. C'était vraiment une rencontre entre moi et ce livre. Et ce qui m'a vraiment frappée à ce moment-là, c'est que je travaille beaucoup sur la littérature de témoignage, mais depuis quelque temps, je travaille aussi sur la littérature contemporaine qui touche aux représentations des violences
de masse
du siècle passé. Et il y a toute une littérature contemporaine, en fait. Il y a ce qu'on pourrait appeler une littérature mémorielle.
À l'échelle européenne ou à l'échelle
russe ? À l'échelle européenne, en tout cas, c'est sûr. Peut-être à l'échelle mondiale, mais à l'échelle européenne, c'est certain. En France, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, on peut citer des titres. Et il y a des séminaires qui ont été consacrés y compris internationaux, à cette question-là. Voilà pourquoi il y a un peu partout en Europe ces strates qui émergent de l'oubli, mais sous une forme fictionnelle, avec tout ce que ça pose de questions aux jeunes et moins jeunes écrivains quant à la mise en scène, non plus des événements, mais de la mémoire des événements, et en particulier des trous de mémoire, des oublis qui accompagnent l'émergence de ces événements dans l'espace public.
Et justement, en quoi est-ce que Sergueï Lebedev prend place dans ce corpus-là, plutôt du côté russe dans ce cas ? En quoi est-ce qu'il s'inscrit dans la littérature contemporaine russe qui prend en charge ces trous de mémoire ?
Alors justement, ce qui m'a frappé, c'est que en Russie, il n'y a pas... Bon, voilà, c'est un pays où cette littérature n'a pas émergé. Il y a des textes, et je cherchais justement des choses sur la mémoire du goulag. Il y a des textes qui en parlent, mais c'est toujours avec une sorte de... Il y a toujours une sorte de flou autour de cette histoire, comme s'il y avait un questionnement muet. Mais a-t-elle eu lieu ? Voilà, il y a un doute fondamental dans certains textes, ce que j'ai pu lire sur la réalité de cette histoire.
Dans une forme fictionnelle ou
dans une forme
aussi
fictionnelle, mais il s'agit de présenter cette histoire comme si c'était un rêve ou un fantasme ou un conte. Et on n'est jamais tout à fait sûr que ça a eu lieu pour de vrai. Et donc, ce qui reflète le statut très problématique de cette histoire en Russie actuelle. Hein, il n'y a pas de consensus sur l'histoire du goulag. Alors, Lebedev est donc à contre-courant de ses contemporains. Parce qu'il aborde cette histoire tout à fait autrement. D'ailleurs, on en parlera peut-être, je trouve que c'est tout à fait génial d'avoir trouvé l'autre grand-père qui n'est pas son grand-père. Donc il met en scène
une
transmission qui n'est pas une transmission directe. Mais donc il est à contre-courant de la littérature actuelle. Il en est tout à fait conscient. Et je crois qu'avec ce livre, il a voulu entre autres prendre en charge justement la mémoire de sa génération, porter en quelque sorte sa génération vers le désenfouissement de cette mémoire.
Est-ce que vous avez une idée de la façon dont ce texte a été reçu en Russie ?
Mais en fait, justement, on en parlait, et Lebedev, qui espérait beaucoup réveiller en quelque sorte justement sa génération des trentenaires, a été un peu déçu par la réception qui n'a pas été du tout à la hauteur de ses espoirs. Donc le livre est d'abord paru dans une petite maison d'édition. Il a quand même été repris par une grande maison. Mais il est passé un peu inaperçu en Russie. Je pense qu'il s'est heurté justement à une sorte de refus de toucher à ces problématiques, alors qu'il a été publié en Allemagne, où il a rencontré vraiment un écho important. Il a été publié en République tchèque, en Tchèque. Et quand je suis allée à Prague pour un colloque sur Chalamov, donc sur le goulag et l'écriture du goulag, quelqu'un est venu présenter le livre de Lebedev. On s'était absolument pas concerté, c'est-à-dire il avait été perçu comme le continuateur de cette mémoire.
Justement, c'est intéressant parce que je vous pose la question de la place que peut tenir Lebedev dans la littérature contemporaine russe, si jamais elle existait. Bon, il se trouve qu'en l'état, elle n'existe pas vraiment telle que vous le décrivez. En quoi est-ce que, selon vous, elle s'inscrit dans un corpus que vous étudiez depuis plusieurs années, qui est vraiment post-violence de masse, sous Chalamov, mais voilà, d'autres noms aussi. En quoi est-ce que ça va dans ce lit de littérature-là ? Ou pas ?
Bon, je crois que d'une part... Effectivement, je pense que pour l'instant, c'est toujours difficile de juger de la littérature contemporaine parce qu'on n'a pas cette distance, mais pour l'instant, je ne vois pas émerger en Russie une littérature mémorielle. Il ne faut pas que ce mot soit péjoratif, hein, mais je veux dire une littérature qui met en scène la mémoire. En tout cas, pas sous la même forme qu'en Europe centrale et occidentale. Et donc, à ce titre, effectivement, Lebedev est un ovni. En revanche, il prend évidemment le relais de la grande littérature russe, qui est passée... Ce rapport à la littérature, il faut le voir à la fois à travers ses références russes, parce qu'il est évident qu'il est nourri de littérature classique, mais aussi, et c'est assez intéressant, de la littérature du dégel, c'est-à-dire la littérature qui a émergé dans les années 50 et un peu plus tard dans les années 60, qui elle-même était une littérature née sur les ruines du stalinisme et déjà tourné vers un certain postmodernisme. Mais par ailleurs, il a énormément lu la littérature française. Et je crois qu'une de ses grandes lectures, c'est Proust.
Ça ravira Romain qui l'a entendu dans ses pages, qui a entendu Proust dans ses pages. Mais en même temps, la littérature du dégel, elle est travaillée par la question du témoignage, qui ne travaille pas du tout Sergueï Lebedev. C'est pas la question du témoignage qui est questionnée dans ce livre-là.
Non, c'est pas la question du témoignage, c'est vraiment la question de la mémoire. Mais il est évident qu'il a lu Chalamov et qu'il a non seulement il a lu Chalamov, mais il a certainement lu ce que Chalamov justement dit de l'oubli. Et alors il y a des pages.
C'est-à-dire ?
Bon, chez Chalamov, il y a deux propos. Je vais les citer brièvement en abrégeant très très important sur l'oubli.
Dans les récits de la Colima.
Le premier, c'est dans les récits de la Colima, lorsqu'il sort du camp, il attend l'avion pour repartir sur le continent, comme on disait. Et il se promène dans la ville, puis il va dormir dans, en attendant donc qu'on annonce l'avion, parce que ça dure très très longtemps. Et tout d'un coup, il prend conscience du fait qu'il pourrait tout oublier. Que là, voilà, il est sorti du camp. Il y a 20 ans de sa vie qui sont passés dans les goulags. Et il pourrait maintenant tout oublier et commencer une autre vie. Et il se révolte violemment contre cette idée. Alors, ce sera d'ailleurs repris dans ses carnets lorsqu'il rentre. Et que sa femme lui dit « Maintenant, pour ta fille, pour le bien de ta fille, tu devrais tout oublier. » Et donc, il va évidemment refuser ça et aller jusqu'à la séparation avec sa femme qui l'avait pourtant attendu, ses 17 ans de camp. Et puis, il y a un deuxième propos que je trouve très, très beau, qui est dans ses carnets, qui est une sorte de réponse à Rilke, au conseil du conseil aux jeunes poètes de Rilke. Et Chalamov donne à son tour des conseils au jeune poète. Il dit il faut avoir connu l'amour, il faut avoir voyagé dans des villes, il faut avoir tenu dans les bras un petit enfant, y avoir accompagné un mourant, etc., etc. Et puis après, il faut avoir oublié tout cela pour pouvoir faire de la poésie. Et voilà, c'est la mémoire comporte de l'oubli. Et c'est en passant par cet oubli que le contenu de la mémoire peut devenir un contenu poétique. Je crois que ça, Lebedev l'a très bien entendu chez Chalamov.
Je suis resté jusqu'à l'âge de 25 ans à l'école. Et ça permet de clarifier un certain nombre de choses, parce qu'on peut leur donner du temps, qui jusqu'alors restait dans une sorte d'ombre, voire de ténèbres, d'où elles avaient beau jeu de peser à notre insu sur la conduite de nos vies. Il s'attache un caractère de délivrance, de libération, au simple fait d'avoir la connaissance, la révélation de choses qui jusqu'alors n'avaient jamais été envisagées comme telles, c'est-à-dire comme des obstacles, des mystères qu'on peut s'enhardir à envisager et à questionner froidement dans les termes requis. Voilà ce qui me semble avoir constitué la particularité de la génération dont je relève. Lorsque on dispose de l'idée approchée du concept, alors la chose vient se ranger, j'ajouterai pieds et poings liés aux lois de l'entendement. Le rapport de servitude, de domination dans lequel on se trouvait pris s'inverse, et pour le coup, ce n'est plus nous, mais le monde qui en quelque sorte s'incline, au lieu qu'auparavant on est prisonnier de quelque chose qui a non nécessité, mais qui pour échapper à la conscience, à la connaissance approchée, a beau jeu de régenter nos destinées. Et alors on n'est pas soi, du moins cette possibilité qu'on avait d'être autrement, mieux, eh bien ne nous apparaît pas, ne peut pas être actualisée, réalisée.
Luba Jorgensen, c'est un extrait d'un entretien qu'on avait eu ici avec Pierre Bergugno à l'occasion de la parution de son livre Géologie aux éditions Galilée. Plusieurs raisons de vous faire entendre ce qu'on vient de diffuser. D'une part pour le titre de ce livre, Géologie, puisque Sergueï Lebedev est géologue de formation et que Pierre Bergugno, dans cet essai, fait le rapport et la métaphore entre les origines, la recherche des origines et le travail de la géologie qui va dans la pierre. On viendra là-dessus, puis ensuite, Pierre Bergugno parle de ténèbres qui ont beau jeu de régenter nos destinées, nous empêchant d'être libres et que la connaissance va vers la libération. Et Sergueï Lebedev met en scène l'autre grand-père comme une ombre planant qui régit la vie de son narrateur du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit mis à jour. Sur la première proposition, à partir de Pierre Bergugno, en quoi est-ce que la formation de géologue de Serge Lebedev joue sur la construction même de ce livre-là ?
Je crois que tout d'abord, ça lui a donné un rapport particulier à la matière. Et notamment, cela l'a confronté à la fois à la pierre. La pierre, cette matière donc dure qui accueille en elle une mémoire non humaine. Et en cela d'ailleurs aussi, on pourrait le comparer à certains passages de Chalamov qui dit que alors que l'herbe est oublieuse, la pierre n'oublie pas parce que tout simplement parce que la pierre Et le permafrost refuse de recevoir les corps des morts et les rejette. Ne les intègre pas, oui, parce que les corps rejaillissent. Et donc, c'est une matière qui empêche l'homme, et, enfin l'État en particulier, d'effacer les traces de ses crimes. Et je crois que les BDF continuent ce dialogue avec la pierre, qui en fait se révèle être paradoxalement une matière très humaine. D'ailleurs, on trouve chez beaucoup de témoins des métaphores qui nous renvoient à la pierre, enfin, que ce soit chez Cartès, chez Primo Levi. Enfin, c'est la pierre ponctue, en quelque sorte, les œuvres testimoniales et revient lorsqu'on cherche à réfléchir sur la question des traces. Et puis, je crois que ça, c'est aussi un roman initiatique, hein, la limite de l'oubli. Et à ce titre, je crois que les BDF parcourent de nouveau ce qui l'a fait mûrir, ce qui l'a rendu adulte, c'est-à-dire confrontation avec la nature sauvage, avec l'espace. Il a quand même exploré, je crois que son sens de l'espace lui vient aussi de ses voyages qui lui ont permis de voir à quel point l'espace lui-même était dépositaire à la fois de l'effacement et de la possibilité de lutter contre cet effacement. Il y a par exemple des fragments sur le paysage que je trouve vraiment extraordinaires. Où il questionne ce paysage qui reflète la destruction de l'homme, hein, mais qui la reflète dans ses formes mêmes, mais sans pour autant être tout en conservant toute sa beauté. Donc il y a toute cette interrogation sur la beauté et la destruction et comment on peut parvenir à saisir la violence à travers des formes qui elles-mêmes renvoient pourtant à des images d'une grande beauté. Donc je crois que voilà, la géologie, c'est tout cela pour lui.
En quoi est-ce que cette figure de l'autre grand-père qui lui permet de bâtir un héritage indirect est aussi une figure de roc?
Bon, le grand-père est lié, mais je ne vais pas tout dévoiler, non. Puisque le grand-père est lié aussi à la violence faite à la terre, faite à la montagne, puisque ce que les BDF met aussi en visibilité, c'est la manière dont la terreur politique a également été comporté également une volonté de transformer la nature, de la façonner à l'image de l'homme. Hein, la terreur en URSS est quand même passée par la création de ces grands chantiers qui ont finalement changé très souvent la face a changé le paysage. Et donc l'autre grand-père est celui qui porte en lui cette violence-là dirigée contre l'homme, mais aussi contre la nature. C'est un roc, mais c'est un roc en ce sens où il est en quelque sorte réifié. Hein. Il est rendu lui-même. Il est lui-même comme de la pierre. Hein. Mais c'est de la pierre non humaine. Et puis, il y a toute la description de cette pétrification progressive de l'autre grand-père qui n'a pas toujours été inhumain. Donc, il y a ces sédimentations successives qui vont se déposer dans son être jusqu'à le réifier.
Il y a cette phrase que je reprends de Pierre Bergougnoux, « Régenter nos destinées ». Dès le début du roman, le narrateur de Sergueï Lebedev se sent comme agi par cet autre grand-père, pour des raisons voilà, qu'il met en scène dans la fiction. Il a un pouvoir sur lui. Est-ce que là aussi, c'est une sorte d'incarnation d'une mémoire qui aurait un pouvoir sur la jeune génération dont il fait partie, y compris si elle n'en a pas conscience.
Je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, et je pense que c'est pour ça que son idée de l'autre grand-père est vraiment géniale. Parce que, bon, d'abord, il échappe comme ça au roman mémoriel, disons.
De la lignée.
De la lignée, voilà, le secret de famille. Et on découvre que le grand-père a fait ceci ou cela, qu'il a été victime ou bourreau. Bon, donc il échappe complètement à cela. Et en fait, il montre bien que la filiation n'est pas forcément directe. Hein, il décale. Je trouve que c'est dans ce décalage qu'il se passe énormément de choses. Et cet autre grand-père qui est pour le moins ambigu, hein, j'en dirai pas plus, est en même temps l'homme qui sauve la vie au narrateur et du coup qui lui sauve la vie en lui donnant son sang et du coup...
Qui l'autorise à naître aussi.
Qui l'autorise à naître. Et donc, ce jeune garçon va être effectivement sous l'emprise de ce sang à la, qui coule dans ses veines. Et effectivement, c'est une très belle image de cet appel qui peut être tout à fait souterrain et inconscient, hein, de la mémoire. Qui fuse à travers l'oubli.
Qui est aussi une source de vie. C'est-à-dire qu'il sent bien, ce narrateur, que s'il ne va pas, à cette source-là, même s'il a l'impression que c'est une source des ténèbres, c'est une source qui l'agit à son insu et qui l'oppresse, s'il ne va pas à cette source-là, alors il n'aura plus la liberté d'arpenter cette terre librement.
Mais d'abord, il va à cette source-là, il va gagner le langage, la langue nécessaire pour dire cette mémoire. Et donc, il y a toute cette quête, effectivement, d'une langue qui sera la sienne. Il y a effectivement, c'est toute la complexité du mouvement initiatique, c'est-à-dire il faut qu'il passe par ces ténèbres. Et d'ailleurs, il cite à un moment Gilgamesh, qui se trouve face à une montagne. Il faut qu'il entre dans cette montagne, même au risque d'y périr, mais il y a un moment où il n'a plus le choix. Je crois qu'il a très très bien senti effectivement ce que cette mémoire peut représenter comme appel. Et cet appel qui vient des choses elles-mêmes, de l'histoire elle-même, et que, voilà, et que l'individu auquel il ne peut pas se dérober et qu'il... qui n'est pas forcément en mesure d'affronter. Mais l'appel est là.
Je me tiens sur cette lisière qui invite à faire un pas en avant. Mais pour cela, il eût fallu que j'y vienne le cœur léger et l'âme libre. Or, mon âme et mon cœur sont pleins de la mémoire des espaces qui s'étendent vers le cercle polaire, de leur mutisme qui a soif de mots, de la blancheur de cette neige qui vous mange les yeux, blancheur d'une feuille inentamée, et du noir semblable à celui brillant du charbon qui attend de se transformer en chaleur des flammes. Noir de la nuit, noir de la mine dont l'air appauvri par chaque respiration ne connaît pas de jour. Venu ici, au bout du monde, je n'ai pas mon dessin devant moi, mais derrière moi. Je dois m'en retourner. Mon voyage est fini. J'entame mon trajet de retour. Vers les mots. Là-bas, au milieu de la chaîne de montagne, en réfléchissant, en parlant, en prenant des notes, tu comprends soudain que tu es parvenu à la limite du langage. La limite du langage, l'extrémité du monde européen. Au-delà s'étend la surface des marécages sibériens. C'est ici que tu apprends ce qu'est véritablement le mutisme. Tu as beau parler, le monde ne te répond pas. Et tu t'aperçois que ta patrie, c'est ta langue. Ses qualités, ses insuffisances sont aussi les tiennes. Hors de ta langue, tu n'existes pas.
Luba Jorgensen, c'est un extrait donc de La limite de l'oubli, dans la traduction que vous faites depuis le russe, où Sergueï Lebedev dit, du coup dans vos mots, d'une certaine manière, parle d'un mutisme qui a soif de mots, d'un voyage entrepris vers les mots, de limite du langage, le mutisme qui revient à plusieurs reprises, et de l'idée d'une lisière. Il y a vraiment ça qui est à l'œuvre aussi dans ce voyage initiatique, celle de conquérir, vous le disiez d'ailleurs à l'instant, une langue pour parler et donc pour fissurer la pierre. Et la voir à nu. En quoi est-ce que, à le traduire, depuis cette langue qui est la vôtre, qui est votre langue maternelle, vous faites un voyage qui n'est pas le même, mais qui, d'une certaine manière, vous concerne tout autant ?
Eh bien, bon, d'abord, ce livre m'était très proche. Ce n'est pas toujours le cas quand on traduit. Même, on peut aimer un livre et ne pas forcément ressentir cette proximité. Et en fait, j'avais l'impression de, en traduisant ce livre, de revenir vers une écriture que j'aurais pu avoir quand j'étais plus jeune. Et donc, aussi de faire un voyage dans le temps. Voilà, en retrouvant des phrases, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écris différemment, mais aussi parce que Chalamov est passé par là et d'autres. Mais... voilà, ça m'a ramené, en fait, c'est très paradoxal, mais je n'avais pas l'impression d'être vraiment dépaysée par ce livre, alors même qu'il m'amenait vers des contrées très lointaines. Mais ça rejoignait aussi, c'est bon, je l'avais bien senti tout de suite, ça rejoignait aussi un cheminement personnel qui m'avait conduite également vers des lieux où je cherchais les traces des camps, parce qu'après avoir traduit Chalamov et travaillé sur lui, j'étais allée à la Colima justement pour voir ces vestiges. En fait, il ne reste rien à la Colima, il ne reste pratiquement rien. Et ce rapport à l'espace, en fait, je voulais me confronter à cet espace, parce que je pense qu'il faut aller sur les lieux, même s'il n'y a rien. Il faut aller sur les lieux. Ils ont toujours quelque chose à nous apprendre.
Ils sont l'anti-oubli, finalement.
Ben, en fait, ils sont à la fois l'oubli et l'anti-oubli. Et les lieux, par le contact physique, on comprend des choses qu'on ne peut pas comprendre autrement. J'ai donc entrepris ce voyage avec les Lebedev et je me sentais très, très proche de ces préoccupations. Voilà, je me suis glissée dans ses pas. Ça a été une... vraiment une sorte de dialogue avec lui tout au long du livre. Donc ça a été une traduction heureuse, même si elle était très difficile.
Justement parce que, comme vous parlez de roman initiatique et qu'il s'agit d'un premier roman, et que tout au long de ce roman, il pose la question d'une langue à conquérir, alors bien sûr dans un objet particulier qui est celui de reconquérir, ou en tout cas de retrouver une forme de mémoire. Cependant, il s'agit aussi pour un auteur, là si on est vraiment du côté biographique, de conquérir une langue pour écrire, pour faire roman. Ouais. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette langue de Lebedev, dans le russe, et comment est-ce que justement vous avez été en elle ?
Alors, je n'ai pas eu l'impression de... Bon, ce qui est toujours difficile dans la littérature russe, lorsqu'on la fait passer vers le français, c'est cette dimension d'immensité de l'espace qu'il habite. Et en français, on a moins de place. Je ne sais pas comment le dire. Mais le français est beaucoup plus... est plus condensé. Il y a plus de... Alors, il y a par ailleurs... voilà, il y a moins de place en français. On a moins d'espace. C'est pour ça que j'ai choisi le français, d'ailleurs. C'est pas quelque chose que je n'aime pas. Mais il y a ces difficultés-là de faire... voilà, comme déménager d'un appartement immense vers un appartement plus... peut-être...
à la fois plus cosy, mais plus étroit.
Voilà, plus cosy, mais plus étroit, exactement. Donc, c'est toujours un peu la difficulté que j'ai retrouvée là. Mais par ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que très précisément. Les BDF est très très précis dans son expression. Ces mots sont... Il y a toujours... C'est une prose vraiment ciselée. Et donc chaque mot a sa propre coloration, sa propre... son agence... Enfin, il s'agence d'une certaine façon avec les autres. Donc j'étais vraiment servie par cette structure extrêmement précise qui ressemble d'ailleurs, en tout cas dans mon imagination, à celle de cristaux. Enfin, on est dans... Voilà, ça me faisait penser à ces images de cristaux... qu'on avait en cours de chimie quand on était enfant. Et du coup, voilà. Alors après, il y a aussi autre chose, c'est que les BDF, et c'est ça que je trouve extraordinaire, vraiment la littérature a toujours des leçons, des grandes leçons à nous donner, c'est que quand on lit les BDF, on a l'impression qu'il a traîné dans tous les séminaires de recherche parisiens sur la mémoire et le témoignage. Bon, ce n'est absolument pas le cas. Hein. Il a fait ce chemin tout seul. Mais j'avais l'impression que toutes les réflexions théoriques que j'avais pu mener au cours des dernières années avec mes collègues, qu'ils les avaient intégrées, évidemment, au niveau d'une écriture fictionnelle, et qui planait au-dessus. Mais,
c'est rafraîchissant de se rendre compte de ça, non ?
C'est absolument génial, je trouve, voilà.
Il parle à plusieurs reprises de limites, de murs de mots, de frontières du mutisme. Et dans un entretien qu'il vous a accordé, qui est reproduit sur le site des éditions Verdier, il dit que, d'une certaine manière, la mémoire des camps est prise dans le ghetto de la littérature, et que la littérature ne peut pas en rester là, et doit, là où les autres arts sont muets, par essence, parler. C'est aussi une position qui est très politique d'affirmer ça.
Oui, absolument. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire...
C'est dur de dire ça, le ghetto de la littérature. La mémoire des camps est prise dans le ghetto de la littérature.
Ça peut être ressenti comme ça, premièrement parce que les camps du Goulag ont été documentés en premier lieu et pendant très longtemps uniquement par la littérature. Hein. Ensuite, les archives se sont ouvertes. Donc il y a eu et il y a toujours des historiens qui travaillent sur cette question, mais elle n'a pas été relayée dans l'espace public, c'est-à-dire il n'y a pas de forme artistique, par exemple commémorative, comme on en trouve ailleurs pour d'autres événements, ou alors il y en a très peu, mais elles ne se sont pas élaborées, sont chaque fois des solutions coup par coup et pas toujours intéressantes. Et donc, en fait, c'est ça qui veut dire, c'est que les autres arts ne s'y sont pas mis et que cette mémoire, après qu'on a pu se réjouir que les historiens se mettent à travailler dessus, bah, d'une certaine façon, elle est toujours entre les mains de la littérature. Alors, c'est une grande mission de la littérature, mais c'est aussi à déplorer parce que ça veut dire précisément... qu'il n'y a pas d'autres forces vives pour prendre en charge cette mémoire-là.
Et il remue, c'est-à-dire que de la même façon que vous disiez tout à l'heure, la roche c'est ou bien du non-humain, ou bien du humain, ou bien du non-humain et du humain, c'est comme s'il disait par cette phrase-là, la littérature elle peut injecter vie et force suffisamment d'ailleurs pour briser de la roche, de la terre. C'est-à-dire que c'est comme s'il... Il réactivait un pacte avec la littérature.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là aussi, c'est un petit peu à contre-courant de la littérature actuelle russe, qui s'est alignée d'ailleurs sur d'autres littératures dans une sorte de déréalisation du réel.
Y compris dans le fictif.
Y compris dans le fictif, voilà. Et lui, il y croit. Il croit à la force de la littérature. C'est toujours le mot agissant est toujours là.
Nous y croyons aussi. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, nous vous faisons entendre les poèmes de Catherine Mansfield, poétesse néo-zélandaise de la première moitié du XXe siècle si l'on considère ses publications. Le poème aujourd'hui s'appelle « L'enfant de la terre ». Il est toujours tiré de ses poèmes dans une traduction de Anne Vad Minkowski et dans la voix d'Adeline Dermy de la Comédie française.
L'enfant de la terre. Au petit matin, bien avant l'aurore, j'étais couchée dans la prairie et j'écoutais la froide chanson de l'herbe. Des brins d'herbe verte froissés entre mes doigts, des brins d'herbe verte pressés contre mon corps. qui repose si lourdement sur moi ? Chantait l'herbe. Et pourquoi celle-ci pleure-t-elle sur mon sein, mêlant ses larmes à celles de l'amant mystique ? Folle enfant de la terre, le temps n'est pas encore venu. Un jour, je t'ouvrirai mon sein. Tu t'y glisseras, mais sans une larme. Puis au petit matin, bien avant l'aurore, ton bien-aimé se couchera dans la prairie. Des brins d'herbe verte froissés entre ses doigts, des brins d'herbe verte pressés contre son corps. Ma chanson ne lui semblera pas froide. Dans ma vague profonde, il trouvera la vague de tes cheveux. Dans mon parfum doux et fort, le parfum de tes baisers. Longtemps, longtemps, il restera là, couché, riant, sans pleurer.
Luba Jorgensen, je vais vous laisser désannoncer ce qu'on entend. Ça va m'éviter de l'écorcher.
C'est Moussorgski, le vieux château, qui fait partie des tableaux d'une exposition.
Merci beaucoup. Sergueï Lebedev, qui est donc l'auteur de La limite de l'oubli, que vous traduisez et publiez aux éditions Verdier dans la collection Poustiaki. Il sera Sergueï Lebedev au Salon du Livre, donc autour du 20 mars.
C'est
le 20 mars que ça s'ouvre,
oui.
et on rappellera sa présence, car c'est un très beau livre et ce sera donc l'occasion pour les lecteurs ou futurs lecteurs de le rencontrer. Profitez des hasards, puisque Nathalie Quintane donne une conférence aujourd'hui au Centre Pompidou à 18h30 à Paris sur littérature et oubli. Décidément, j'ai envie de dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour écouter cette émission, le site franceculture.fr vous donnera toutes les clés. Vous pourrez aussi vous y abonner au podcast, ou bien de pas la peine de crier tout entier, celui du poème. Je suis lassée de vous rappeler tous les choix. Je m'arrête. Vous pouvez nous écrire sur le site internet. Merci beaucoup. C'est une déferlante de bienveillance et d'attention. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric. Merci à Véronique Lamandour, Céline Geoffroy et Laurette Nobécourt. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain Debec de Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel. J'ai dit Jean-Frédéric ? Oui, on sera là demain, même heure, même signal.